Mémoire vive,
présenté par Stéphane Bou
et préparé par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Le 19 avril 1948 était inauguré à Varsovie le monument aux héros du ghetto, conçu par Nathan Rapaport. Si l'un des reliefs du monument s'intitule « Marche vers le néant » ou « Marche vers l'extermination », l'œuvre insiste néanmoins sur la célébration des combattants. Il faut dire que le bloc de pierre sculpté de 11 mètres de haut ne déroge en rien aux règles classiques de la monumentalité des édifices destinés à commémorer un événement glorieux. On pourrait d'ailleurs relever que c'est par la structure même de la construction que la représentation des héros du soulèvement du ghetto met au second plan celle de l'extermination. Ce qui soulève une question incessamment posée depuis 1953 au moins, quand la Knesset a décidé de construire Yad Vashem, musée et mémorial au cœur de Jérusalem, quelle forme donner à un monument ayant pour but de représenter la destruction ? C'est la question que se sont posées chacun des architectes qui ont travaillé à de tels projets. De Moshe Safdie, concepteur du nouveau musée de Yad Vashem, à Daniel Libetkin, qui a dessiné le musée juif de Berlin, en passant par James Hugo Fred, architecte du mémorial américain de l'Holocauste à Washington, ou par Roger Diner, celui du mémorial de Drancy. Quelle architecture pour une mémoire de la Shoah ? N'est-on pas face à une équation paradoxale, voire impossible, une contradiction dans les termes ? Est-ce qu'un monument pour la destruction ne peut pas être qu'un monument par défaut, un monument qui se nie comme tel. Alors, monument par défaut, c'est le titre de l'ouvrage de l'historienne de l'architecture Ada Chiara Zevi, sous-titré Architecture et mémoire depuis la Shoah. Il vient de paraître en français aux éditions de la revue Conférence. Alors, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Caro, qui est le directeur des éditions de la revue Conférence, qui a traduit ce livre soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Bonjour Christophe Caro.
Bonjour.
Alors, avant que l'on ouvre ensemble le livre Ada Chiara Zevi, est-ce que vous pourriez nous présenter la nouvelle collection Théamim, ponctuation juive au sein des éditions de la revue Conférence, qui accueille Monuments par défaut, mais aussi 15 voyages de Varsovie à Londres, les mémoires de Jasia Rechart, une des dernières survivantes en vie du ghetto de Varsovie, et je mentionne l'apparition imminente des livres que vous venez de me donner, qui va paraître dans quelques semaines, dans quelques jours je crois même, La Torah n'est pas au ciel, Nature et fonction de la loi juive, d'Elizer Berkowitz.
Écoutez, je ne saurais mieux présenter cette collection qu'en reprenant les mots de ceux qui la dirigent, à savoir Livia Parnes d'un côté et Pierre-Emmanuel Doza de l'autre, qui écrivent ceci, et rassurez-vous, c'est aussi bref que dense. Théamim, ce sont les signes graphiques de la cantillation hébraïque. Donner des théamim, c'est donner aux mots leur tempo, aux textes son phrasé et ses parfums, au sens une polyphonie qui en fait résonner la pluralité dans l'unité savoureuse de leurs secrets. La collection Théamim entend décliner les multiples facettes des cultures juives, anciennes ou modernes, profanes ou religieuses, d'ici ou d'ailleurs. Il n'y a pas programme, vous voyez, plus simple. Et en tout cas, en tant qu'éditeur, ça me semblait tout à fait décisif, évidemment lié à la rencontre d'une part de Livia Parnes et d'autre part de Pierre-Emmanuel Doza, de faire en sorte que ce que nous connaissions bien, ou que je connaissais bien en tant qu'éditeur, de revues, de livres, etc., à savoir les traditions grecques et latines, tout cela puisse s'accompagner d'un pilier qui fait défaut à nos cultures humanistes, et pour faire vite, à savoir le pilier juif et l'immense tradition dont ce pilier est porteur. Voilà pourquoi ce livre s'inscrit dans cette collection, et voilà pourquoi aussi bien cette collection ne sera pas particulièrement spécialisée dans les travaux spécialement mémorial, mais visera systématiquement à faire mieux connaître des aspects si divers d'une culture vastissime.
Alors, pas seulement la culture mémoriale, mais néanmoins, on va parler de ça aujourd'hui, bien avec sûr. Ce livre « Monuments par défaut, architecture et mémoire depuis la Shoah que, », que vous avez traduit. Alors, que vous avez traduit de l'italien, donc Ada Chiara Zevi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette historienne de l'art, de l'architecture, nous la présenter en somme et nous dire comment vient l'idée, effectivement, d'accueillir dans votre maison d'édition la traduction de ce livre ?
Le premier point, c'est une personne charmante et d'une ardeur considérable. C'est important à dire pour un éditeur. C'est quand même agréable de travailler avec des gens qu'on estime profondément. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la découverte du livre, avant de vous dire deux ou trois choses sur Ada Chiara Zevi. En vérité, ça a été la suite d'une rencontre très féconde qui a donné lieu à un autre livre, « Venise est une ville » d'un architecte et urbaniste Franco Mancuso. Et je cherchais, de telle sorte que la collection puisse se développer, d'autres titres à y faire figurer. Et parmi ceux auxquels j'avais songé, il n'y avait non pas celui d'un des Karatsevi, mais beaucoup d'autres ouvrages dont des spécialistes de l'architecture m'ont dit qu'ils n'intéressaient que des intellectuels comme moi et non pas des historiens ni de la mémoire ni de l'architecture. Je me suis donc fondé sur le jugement de Franco Mancuso, cet urbaniste et architecte, qui m'a indiqué ce livre d'Anna Karatsevi. Alors celle-ci est une historienne de l'architecture, elle avait eu sa lauréat en architecture dans les années 76-77, et elle a longtemps développé un enseignement et des recherches aussi bien dans différentes écoles de beaux-arts, de Macerata jusqu'à Naples, qu'à l'université à Rome par exemple, pour l'histoire même de l'architecture. Ce faisant, elle était d'une certaine manière et très naturellement l'héritière d'un très grand nom de l'histoire de l'architecture, à savoir celui de son père, Bruno Zevi, qui a écrit des livres qui sont presque, dans ce pays même, des best-sellers, « Comprendre et voir l'architecture », par exemple, aux éditions de Minuit. Et la voilà sur les traces, en effet, de son père, mais en les orientant, comme lui-même l'a fait pour une part de ce qu'il a écrit, en les orientant du côté contemporain. Et donc, on lui doit énormément d'ouvrages, de préfaces, de catalogues, qui nous présentent aussi bien les architectes actuellement actifs, que des méditations sur toutes sortes d'artistes fort importants, Sol Lewitt, Richard Serra par exemple, beaucoup de minimalistes, mais aussi bien, et il me semble, à moins que mes mémoires ne me jouent des tours, qu'elle l'évoque aussi dans son ouvrage, à savoir Fontana, Marcello Fontana, parce que c'est aussi un exemple pour elle tout à fait décisif d'une œuvre au-delà de laquelle on ne peut guère aller pour savoir ce que la peinture peut être. Et c'est aussi une question qui se pose évidemment pour les mémoriaux, jusqu'à quel degré d'absence pour signifier l'absence, on peut aller, alors que le mémorial est traditionnellement lié à la visibilité et au fait que nous ayons besoin d'objets pour précisément nous remémorer, non seulement nous souvenir, mais aussi être intimement habité par l'avertissement que le monument, étymologiquement, nous adresse.
Oui, ça, c'est une des questions qui court tout le long du livre, à savoir ce qu'un monument peut-il être autre chose précisément qu'un objet à contempler, à voir dans sa... On pourrait dire la brutalité de sa présence frontale, comme ça. C'est une question.
Ça, c'est bien la thèse générale de l'ouvrage, vous voyez. Et en quoi, d'ailleurs, il me semble qu'il est vraiment passionnant aussi pour ceux qui s'intéressent à l'art contemporain, l'architecture contemporaine, presque indépendamment de ce qu'indique son sous-titre, à savoir architecture et mémoire depuis la Shoah. On aurait pu mettre depuis 1945, puisqu'en vérité, l'ouvrage d'Ada Karatsevi s'ouvre par l'analyse d'un exemple qui n'a pas de rapport immédiat avec la Shoah, à savoir le massacre des fausses Ardéatines à Rome. Donc les 335 personnes qui ont été massacrées par les nazis en représailles d'un attentat contre leurs troupes aux fausses Ardéatines.
Alors justement, le livre part de l'étude de ce monument. Hein. Pourquoi ce monument-là devient, dans l'économie générale du livre, la matrice de ce qu'elle cherche à définir? Alors il faut peut-être d'ailleurs à ce moment de la discussion revenir sur le titre « Monument par défaut ». Est-ce que faut l'entendre comment, « Monument par défaut » ? Un oxymore, une antiphrase, un paradoxe? Qu'est-ce que c'est que ce monument par défaut ?
On pourra donner la définition, enfin du moins la définition qu'on peut en donner peut recouper les éléments que vous évoquiez. Il s'agit simplement pour elle de savoir de quelle manière on peut figurer dans l'espace visible et physique quelque chose dont la figuration est indéniablement problématique. Pour reprendre les textes qu'elle aime bien citer de Gérard Wachsmann, comment faire du visible avec de l'absence? Comment mettre un nom sur de l'indicible, etc. sans non plus entrer dans la rhétorique dont nous avons peut-être trop abuser de celle de l'indicible, etc. Parce que l'indicible est en train de parler énormément et même de bavarder terriblement. Bon. Donc il s'agit d'avoir des choses, si je puis dire, sérieuses à se mettre sous le regard alors même qu'il n'y a strictement rien à voir.
Comment donner une consistance à l'absence.
À l'absence. Il lui semblait alors que le monument des fausses Ardéatines était un des premiers exemples de monument par défaut, et je vais y revenir dans un instant. Défaut de quoi? Elle s'en explique dans sa préface. Défaut précisément de ce qu'on appelle monumentalité, de ce qu'on appelle hiératisme, ce qu'on appelle statisme. Défaut aussi de ce qu'elle appelle l'expropriation des émotions. C'est-à-dire que le monument serait en train de manifester, d'incarner, de pétrifier, pour ainsi dire, l'émotion qu'il conviendrait d'avoir, et qui serait éventuellement visée par un État, par des instances publiques, etc., devant un certain nombre de phénomènes historiques. Dépossédant du même coup le spectateur, ou du moins l'invitant à se déposséder, de l'expérience sensible, l'expérience concrète, à la fois historique et personnelle, individuelle, qu'il pourrait faire de la remémoration de ces événements.
Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit aussi de produire des émotions qui sont d'une autre nature que ceux traditionnellement proposés par les monuments, ceux qu'on peut voir quand on traverse n'importe quelle ville.
C'est ça qui est très problématique. Nul n'en a la clé. Vous vous rendez bien compte que dans la cartographie, mettons, de ce qu'elle appelle monument par défaut, cartographie européenne, mais pas seulement, puisqu'elle s'intéresse aussi à des monuments outre-Atlantique. Dans cette cartographie, on voit bien que ce qui est à l'œuvre est une autre conception du monument, une autre conception de la mémoire, mais dont l'effet est extrêmement difficile à prévoir, et dont, d'ailleurs, à mes yeux, il ne faudrait absolument pas prévoir la qualité finale. Sans quoi, il y va d'une brutalité étrange. Refuser la frontalité, refuser la monumentalité, c'est peut-être, de façon plus insidieuse, dire strictement aux gens ce qu'ils doivent a priori penser. Voilà un peu où est la grande difficulté. Alors pourquoi le livre s'ouvre-t-il sur le monument des fosses ardéatines? Parce que ça a été le premier exemple, surtout après la parenthèse, enfin pour parler comme Salvemini du fascisme, vous rappelez que celui-ci reprenait ses cours en disant « Ieri dicebamus, nous disions hier, etc. » comme si de rien n'était, ce qui est très problématique, évidemment, quand il s'agit d'instaurer une histoire. Mais donc, après cette, mettons, parenthèse, il s'agissait de retrouver déjà, pour ce monument, l'ensemble des langages qui avaient été mis, si je puis dire, de côté par la période fasciste. Et l'ensemble des langages disponibles, mettons, avant que Mussolini n'atteigne le pouvoir, et qu'il a congédié comme étant nul et non avenu. Donc, d'une part, renouer avec ce que l'art avait de plus, fécond, de plus problématique avant cet avènement. Deuxième élément, on est...
veut dire renouer avec les avant-gardes, avec la modernisme.
Oui, mais aussi bien avec l'art, disons, plus académique. Par exemple, la culture de Coccia, c'est quelque chose qui pourrait être une sculpture monumentale classique, si j'ose dire. Donc, ne pas avoir d'exclusive et faire avec les langages disponibles, enfin rendus aux visibles après cette parenthèse. C'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est que l'État italien se trouvait devant des événements qu'il n'était pas possible de passer sous silence, puisque c'était précisément le programme nazi que de les enfouir à jamais. Exactement comme physiquement ça s'est fait pour ces 335 personnes massacrées dans les fosses ardéatines, puisque les Allemands avaient fait sauter le terrain pour que tous les corps fussent enfouis. Alors, comment faire? Alors même que ce gouvernement, dans le programme qu'il avait élaboré, se rendait bien compte qu'on ne pouvait pas parler de cet événement comme n'importe quel autre. Qu'il y avait donc un langage particulier à trouver. Et si Adakar Zevi, le met au début de son livre, c'est parce que c'est la première fois qu'un monument ne s'érige pas devant nous comme tel, mais impose un parcours où il y va de l'expérience subjective du visiteur. Un parcours, si je puis dire, obligatoire, fléché, superbement composé par les deux architectes, Fiorentino d'un côté, et puis Perugini de l'autre. Et ce parcours fait aller progressivement des grilles d'entrée très expressionnistes, par exemple de Mirko, avec... de façon stylisée, si je puis dire, des corps torturés, des corps souffrants, à l'esplanade générale, où la statue même la plus classique indique trois directions, dans les corps aussi martyrisés qu'elle fait voir, et qui sont les directions qui seront celles du parcours du spectateur, culminant au total dans la visite silencieuse et respectueuse de cette sorte de mausolée très étrange, une immense dalle de béton recouvrant les 335 tombes, et dont précisément la tente du souvenir, ensuite, a... en Israël, se souviendra. Donc c'est la première fois que, d'une certaine manière, on demande au spectateur d'être lui-même, dans l'expérience qu'il fait, le lieu de la mémoire. Il y a devant soi, pour prendre une expression célèbre, un lieu de mémoire, mais ça n'est pas dans sa staticité qu'il est important. Il est important dans l'invitation qu'il fait au spectateur de se remémorer à proportion des pas qui font pénétrer dans l'édifice.
Donc ce mouvement du spectateur, l'intérêt porté par l'architecte ou l'urbaniste ou l'artiste au parcours que va être celui du spectateur à l'intérieur de l'œuvre ou autour de l'œuvre, effectivement va devenir matriciel dans un grand nombre d'œuvres dont parle le livre. Je souligne, le livre est un livre illustré, richement illustré, magnifiquement illustré, où on voit toutes ces œuvres rentrer en résonance les unes par rapport aux autres. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est effectivement le titre, c'est Architecture et mémoire depuis la Shoah, mais par monument, il ne faut pas entendre que seulement le monument ou l'édifice. C'est les architectes sont en jeu, les artistes sont en jeu, toutes sortes de
Oui, le rapport avec la puissance publique.
Voilà, les musées, très musée, important, la muséographie. On peut peut-être s'arrêter sur quelques artistes. Hein. On a, évidemment, ça brasse un tel nombre d'objets, ce livre. Moi, quand j'ai découvert le livre avec son titre, pour ma part, j'ai immédiatement pensé au monument contre le fascisme de Jochen Gertz et de Esther Chalef, qui était, il y a quelques jours, au mémorial de la Shoah avec Ada Kiarazevi. Donc, c'est-à-dire ce monument paradoxal, assez génial dans sa conception, puisqu'il s'agit précisément de montrer le processus de sa propre disparition. Et là, on pourrait dire qu'il y avait une première matrice, comment dire, avec le mausolée des fosses adriatiques dont vous avez parlé, mais on pourrait dire qu'avec cette œuvre-là, il y a quelque chose comme un paradigme qui atteint son point de perfection, on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire, on montre la disparition et ensuite il y a la présence de quelque chose qui a disparu et la marque d'une absence.
Et c'est, si l'on veut bien, le nec plus ultra du contre-monument. Et c'est très problématique en tant que tel. De quoi s'agit-il?
Je vous interromps une microseconde, parce que vous dites contre-monument, et le livre est tissé de ces expressions-là. Contre-monument, monument par défaut, donc évidemment oui. Le titre, monument diffus, monument invisible. Il s'agit vraiment à chaque fois de maintenir le mot de monument et de trouver toutes les nouvelles dialectiques avec lesquelles il rentre en ligne de compte.
Vous l'avez bien dit à l'instant, il ne s'agit pas d'un jeu rhétorique chez Ada Kiarazevi, mais simplement de mettre à l'épreuve ce que traditionnellement on appelait monument, de mettre à l'épreuve la mémoire devant des phénomènes inédits et qui font comme une sorte de d'accro dans le tissu du temps, comme la Shoah, comme les massacres de masse, etc. Bien. Et donc, il s'agit de trouver des figures, des nominations qui sachent dire ce qui se passe dans ce type de rapport au lieu et à la mémoire totalement inédit. Dans le cas du contre-monument de Rockengers et Esther Chalef, de quoi s'agit-il? D'une colonne de 12 mètres de haut, revêtue de plomb, et sur laquelle, contre le fascisme donc, mais on n'en sait rien encore, je veux dire par là, quand le visiteur la voit, il le sait par un petit cartel qui est juste à côté, dans la banlieue de Hambourg, et il s'agit pour les visiteurs de signer, de mettre une phrase, etc., avec un stylet, sur le plomb du monument. Et il a disparu en 7 ans, non pas parce que le stylet aurait particulièrement appuyé et que le monument se fût effondré sous les efforts des visiteurs, mais tout simplement parce que, de façon concertée, il s'enfonce progressivement dans le sol.
À mesure que les signatures
sont là. Voilà. C'est-à-dire que lorsque, mettons, une certaine quantité de signatures intervient, le monument s'enfonce dans le sol pour à nouveau libérer un espace vierge.
Vous parliez tout à l'heure du parcours du spectateur. Là, le spectateur participe
à l'écriture du monument, au processus. Voilà. Et à la toute fin, c'est-à-dire lorsqu'il ne reste presque plus rien, le spectateur n'a à découvrir qu'une phrase qui, en substance, nous dit « le monument disparaît, mais c'est vous désormais qui êtes le monument ». C'est-à-dire on remplace le monument à la mémoire d'un massacre, etc., par la mémoire du monument. Et la mémoire du monument, celui qui en est le lieu, c'est le spectateur lui-même. Et donc le monument disparaît complètement dans la mémoire monumentale, si je peux dire, la mémoire du monument qu'il fut, chez le spectateur lui-même. Mais le problème de ce genre de choses, enfin le problème, je n'ai pas à juger de la qualité et de la validité de moi, ça me semble assez génial comme idée, il est de deux ordres. D'une part, un ordre, si je puis dire, intentionnel. Si on n'a pas le mode d'emploi en substance, plus rien désormais dans le visible ne nous dit ce qu'il en fut du projet initial et même de son état contemporain. Ce qui signifie que ce monument lui-même appelle d'autres monuments qui font mémoire du monument qu'il fut. Une sorte de mauvaise infinie, en tout cas d'abîme un peu dangereux à mes yeux.
Mais on pourrait dire aussi qu'il y a une structure mélancolique de ce monument qui finit par symboliser le refoulement même de la mémoire. Moi, c'est ça que je trouve extrêmement puissant dans un monument comme celui-là. Et je pense que c'est quelque chose que Gertz a en tête. C'est-à-dire de mettre en scène
la disparition
du monument et le fait qu'effectivement la mémoire se refoule et que l'oubli s'installe, quelque chose comme ça.
Donc, et ma réserve tient simplement, s'il est possible de faire des réserves sur quelque chose qui est de l'ordre d'une œuvre, autrement dit, qui s'impose, qui est là, qui est d'abord un concernement, hein. Elle tient non pas à ce que vous dites, qui me semble très juste, hein, ça lutte terriblement contre le refoulement même de la mémoire, c'en est l'antidote absolu, en un sens, mais elle tient à ce que cette mémoire même du monument peut devenir désormais qu'il a disparu. Oui. Donc c'est ça qui me semble plus problématique. Et ensuite, dans l'ordre simplement des choses qu'il y a à faire pour commémorer ou pour se remémorer, on sent bien que là, on a franchi une limite, d'une certaine façon, qui devient du coup, qui nous ouvre à quelque chose d'impossible, enfin qui est de l'ordre de l'impasse. Exactement comme Fontana, si on peintre. Donc si, mettons, on lacère un tableau pour interdire toute peinture, si donc, de ce point de vue, on fait la dernière peinture qui puisse exister, il est extrêmement difficile, comme il l'a été dans la vie de Fontana d'ailleurs, de répéter l'opération. D'une certaine manière, on a compris, il ne faut pas que ça devienne une rhétorique ensuite de l'impeignable, si le mot existe, il va exister momentanément, ou de l'indicible, ou de l'invisible, etc. Mais on se rend bien compte qu'il y a là une impasse qui est superbement réussie en tant que telle. On pourrait trouver dans l'histoire des littératures, des philosophies, des gens qui sont allés jusque au point de l'impasse, mais qui peuvent être les seuls à le faire. Après quoi, il faut reculer d'un pas, ou même de plusieurs, pour savoir de quelle manière, désormais, faire en sorte que cette question de la mémoire se pose à nouveau sans être interdite par la réussite absolue et contradictoire d'un contre-monument.
Alors, avec cette œuvre-là, effectivement, on touche à un point un peu hérétique, vous l'avez dit tout à l'heure, en tout cas extrêmement problématique. On peut peut-être parler d'autres œuvres, moi, qui m'ont fasciné, dont je connaissais l'existence, mais l'analyse était vraiment passionnante à suivre. Et c'est notamment ces pierres d'achoppement, ces pierres sur lesquelles on trébuche. Je tiens à préciser aux auditeurs qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas rentrer dans le détail de toutes les œuvres, mais moi, je pense que c'est intéressant d'insister sur des choses qui sont vraiment centrales dans le livre, et notamment ces pierres d'achoppement, pierres sur lesquelles on trébuche, qui sont le contre-champ de ce que vous venez de dire sur Gertz, puisque là, on a le sentiment qu'en fait, l'Europe tout entière pourrait être le lieu de ce que Ada Karasevi appelle un musée diffus, quelque chose comme ça. Comment parler
Les pierres d'achoppement, Stolpersteine de Günther Demnig, sont vraiment une œuvre, elle aussi, géniale. Ça fourmille d'œuvres géniales, ce livre. Bien, hein, comme vous dites, c'est difficile d'en parler toutes. Et toutes discutables aussi, toutes problématiques et fécondes par les interrogations qu'elles posent. De quoi s'agit-il avec les Stolpersteine, les pierres d'achoppement? D'un projet développé depuis longtemps par l'artiste, de sertir des pavés d'une petite plaque de laiton sur laquelle sont indiqués les noms, date de naissance et date, quand on la connaît, de disparition dans un camp, de ceux qui y ont été exterminés. Et de placer ces petits pavés dans les villes et devant les domiciles desquels ils ont été arrachés pour le pire. Et voilà donc la carte européenne qui, disons, scintille maintenant, parce que c'est un laiton un peu brillant, dont on espère que les habitants, les passants prendront soin, eh bien, de toutes sortes d'éléments mémoriels, d'une extrême discrétion en même temps que d'une très grande efficacité, qui viennent comme cela rappeler à l'espace public que nous ne sommes pas les premiers à l'avoir foulé.
Et en masse, il faut dire.
Et en masse, il y en a 65 000 en Europe.
65 000 en Europe, c'est colossal, c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que...
Et je trouve d'un équilibre, et je pense que Dakara serait d'accord avec cela, c'est quelque chose qu'elle aime, c'est pour cela que ça fait aussi l'image de couverture, qu'elle aime tout particulièrement, à savoir la puissance extraordinairement intense pour qui prend le temps de réfléchir à ce qu'il voit, la puissance extraordinairement intense de cette qualité de mémoire, cette qualité de souvenir, le surgissement, pour ainsi dire, de celui ou celle qui fut une personne, et en même temps, l'extrême effacement, la discrétion très considérable, qui n'a pas justement le défaut, on pourra y revenir, parce que c'est discutable aussi, mais qui n'a peut-être pas le défaut de l'hyper-monumentalité ou de l'imitation, mettons, des signes du désarroi, des signes du déséquilibre, des signes de la terreur, d'un certain nombre de musées qui ont été bâtis, Libeskind par exemple à Berlin, où tout est traviole, pour faire vite, tout est guingois, tout simplement parce que l'expérience que nous pouvons faire de l'indicible nous met nous-mêmes dans des conditions d'inconfort absolu. C'est extrêmement brutal, si l'on veut bien. C'est la même chose par Eisenmann pour le monument à Berlin. On pourrait peut-être faire un reproche un peu de ce genre aussi à Demnig, mais il faudrait vraiment aller chercher la petite bête. En revanche, cette présence en effet diffuse, discrète de la mémoire dans l'espace public, c'est quelque chose de décisif. Mais je comprends qu'il y ait eu quelques réticences, notamment de l'État français, qui je crois a refusé, peut-être qu'il ne le fait plus, depuis un an, avait refusé. Parce que le problème, on s'en rend bien compte, le problème que ne pose pas le monument classique dans sa matérialité, sa staticité, etc., c'est qu'il procède par définition d'une commande qu'on va dire essentiellement publique. Ce qui signifie qu'il est obligé de déclarer son identité, de donner ses papiers, de dire quel sens il vise, qu'il soit admissible pour l'idée que les citoyens, dans la personne de leurs représentants, se font de l'avenir possible d'un pays. Dans le cas de monuments de ce genre, d'une certaine manière, leur discrétion les impose beaucoup plus encore que les autres. Ils ne sont pas décidés par une instance particulière qui irait poursuivre en eux un sens dans lequel les uns et les autres pourraient se retrouver.
Mais sur ces pierres d'achoppement, donc il faut vous inciter sur l'effacement et la discrétion de ces pierres. Mais c'est aussi des pierres sur lesquelles on trébuche. Elles sont pas au même niveau.
Elles sont pas au même niveau.
Et donc effectivement, le passant trébuche sur ces pierres, et ces pierres aussi ont pour fonction de briser une continuité de sa vie quotidienne dans l'espace urbain.
Et ça, donc, c'est aussi... C'est bien dans une idée, dans un concept. Mettons, l'art, si l'on veut bien, d'Amenique est conceptuel, mais il l'est de façon extraordinairement riche. Pourquoi ? Précisément parce que ces pierres sont bien physiques et on peut y trébucher. Or, le concept en question, c'est celui de scandale. Scandalon en grec signifie ce qui nous fait trébucher, la pierre, le charcutier, comme disait dans ma famille, quand il y avait une pierre sur un chemin, on trébuchait dessus, ils appelaient ça un charcutier, ou alors le caillou qu'on a dans la chaussure et qui fait qu'on marche un peu de travers. Donc il y a là-dedans quelque chose qui nous rappelle un scandale dont certains l'ont dit absolu. Quand il y a une sorte d'amour, si je puis dire, d'affection considérable entre un concept et sa traduction matérielle, on est devant ce qu'on appelle une œuvre. Et il n'y a pas de reliquat, vous voyez, ça fait corps, si je puis dire. Et que ça fasse corps progressivement, et de façon encore une fois discrète, inimposée, si le mot existe, avec l'espace public, c'est une grande chance, je crois, aujourd'hui, pour inscrire de façon indélébile la mémoire du pire.
Bon, je vous remercie beaucoup, Christophe Carreau. Les auditeurs auront compris que la richesse du livre, on a insisté surtout sur quelques œuvres seulement, mais il faut dire que ce livre évoque les grands musées, les grands mémoriaux, le musée de l'Holocauste à Washington, Yad Vashem évidemment. On rentre dans la genèse de la conception de ces grands monuments, de ces musées, de ces œuvres, de tous ces édifices. Bon, voilà, on en a eu un petit aperçu avec vous à partir de deux œuvres, on essayait de comprendre, voilà, la formule monument par défaut. Donc je rappelle que ce livre, Monument par défaut, architecture et mémoire depuis la Shoah, d'Ada Chiarzevi, donc que vous avez traduit de l'italien Christophe Carreau, a été publié aux éditions de la revue Conférence. C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevive au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.